Chapitre 42. Après le repas, Simon guida ses invités dans les entrailles de surplomb du monde. Dans les couloirs illuminés par une kyrielle de lampes magiques, Nietzsche espéra que les érudits se montreraient moins dispendieux en pouvoir pour les sorts plus sérieux, parce qu'un excès dans ces domaines-là se révélait vite dangereux. Si le complexe était impressionnant vu de l'extérieur, de l'intérieur il coupait le souffle. Un infini alignement de salles remplies de livres où des disciples déchiffraient d'antiques textes à la lueur de lampes magiques. Sur chaque table, des piles de livres ou de rouleaux attendaient leur tour. Le long des murs, des échelles sur glissière permettaient d'accéder aux rayonnages les plus hauts. Dans l'air planait une incroyable énergie, la rage de retrouver des connaissances perdues afin de modifier l'histoire du monde.
Ces endroits se nommaient des sites centraux, dit Nathan. Des montagnes de livres cachées sous des cimetières, dans les catacombes du palais des prophètes ou dans d'antiques mausolées. Mais je n'avais jamais vu des archives si complètes.
Et ce n'est qu'un début, dit Simon. Ne l'oubliez pas, ce sont des millénaires de savoir que nous mettons à la disposition de tous. Après des années de labeur, nous ignorons toujours de quelle quantité de connaissances nous avons hérité.
Quand les antiques sorciers ont compilé ces archives, ajouta Victoria, ils étaient menacés et donc pressés par le temps. En conséquence, ils n'ont pas fait de tri. Des caravanes entières arrivaient ici, leur cargaison d'ouvrages aussitôt débarquée et stockée dans ces salles. Chaque jour, des cavaliers déboulaient avec des rouleaux de parchemin ou des grimoires arrachés de justesse aux purificateurs de sous la canne. Dans des conditions pareilles, le classement est plus que souvent passé à l'as.
Victoria chassa de son front une mèche vagabonde.
L'affectation des livres aux mémoristes reposait sur leur niveau d'importance, pas sur une quelconque logique thématique. Du coup, certains de mes acolytes doivent en savoir long sur les prophéties, sur le contrôle du climat et sur les précautions à prendre avec la magie soustractive. D'autres peuvent sans doute modeler la glaise, altérer la pierre, dominer les éclairs et peut-être influencer les courants maritimes. Et tant pis si nous sommes très loin de l'océan.
Une sacrée désorganisation, marmonna Nathan. Comment regrouper des connaissances spécifiques?
Simon haussa les épaules.
En faisant des recoupements. N'est-ce pas la mission d'un érudit? Toutes les connaissances sont précieuses.
Nietzsche ne put s'empêcher d'intervenir.
Oui, mais certaines ont plus de valeur que d'autres. Pour l'heure, c'est le buveur de vie qui nous intéresse. La balafre s'étend et ça ne peut pas continuer.
Simon parut troublé.
Laissez-moi vous dire que... Non, je vais vous montrer plutôt. Ce sera plus facile à comprendre.
Le conservateur en chef guida ses invités jusqu'à l'autre versant de la mesa. Par une ouverture naturelle, on voyait en contrebas une partie de la balafre très éloignée des sources de Verdun. À la lumière du soleil couchant, Nietzsche sonda le désert qui s'étendait à perte de vue à ses pieds.
« Il n'y a pas si longtemps, » dit Simon, « ce paysage était un régal pour les yeux. Puis le buveur de vie s'y est attaqué. »
Plus déterminé que jamais, Nietzsche serra les poings.
« Avant de le combattre, nous devons savoir qui il est et d'où il tire son pouvoir. D'où vient-il ? »
Simon soupira.
C'était lui aussi un de nos érudits parmi les plus ambitieux. Il se nomme Roland.
L'un des vôtres a fait ça ?
S'écria Bannon.
Pas délibérément,
dit Victoria, comme si elle prenait la défense du buveur de vie.
C'était un accident. À l'époque, j'étais une mémoriste mariée et dans la force de l'âge. Roland étudiait ici depuis de longues années. Un des premiers extérieurs invités parmi nous après que j'ai neutralisé le sort de camouflage.
Tout le monde le respectait, dit Simon.
Je rêvais d'être comme lui, et je n'étais pas le seul. Il a été le premier conservateur en chef de surplomb du monde. Hélas, même les plus grands génies ont des faiblesses humaines. Roland n'était pas vieux, mais il est tombé malade. Une affection dégénérative qui le rongeait de l'intérieur. Les tumeurs se multipliaient dans son corps et aucun de nos guérisseurs ne pouvait l'aider.
Victoria prit le relais.
Roland souffrait, il savait que la fin approchait. C'était visible à ses yeux enfoncés dans leurs orbites, à ses joues creuses et à ses mains tremblantes. Perdre un esprit si brillant était un drame, mais il fallait s'y résigner.
Roland, lui, n'a pas baissé les bras. Terrorisé par la mort, il était prêt à se sauver à n'importe quel prix, parce qu'il pensait avoir encore de grandes choses à accomplir. Pour trouver une solution, il a interrogé tout le monde et lu des centaines de grimoires. Un jour, il a découvert un sort qui lui permettrait de se maintenir en vie en absorbant de l'énergie. Un de mes mémoristes l'avait enregistré partiellement et Roland s'est lancé sur cette piste. C'était risqué, il le savait. C'est pour ça qu'il n'en a parlé à personne. Se sachant condamné, il s'est lancé dans l'aventure, sans savoir exactement ce qu'il faisait. Son sort lancé, il s'est lié à lui afin d'emprunter de l'énergie au monde et de régénérer son corps.
Victoria se mordit la lèvre inférieure.
Il a réussi. Alors qu'il était visiblement au bout du rouleau, il a repris du poil de la bête. Le sort lui rendait ses forces, ça se voyait à l'œil nu.
Victoria se rembrunit.
Mais il ignorait comment arrêter le processus qui devint incontrôlable.
Je me suis installé ici à ce moment-là,
coupa Simon.
Roland était terrifié par ce qui lui arrivait et ce qu'il infligeait aux autres. Volontairement ou non, il leur volait sans cesse de la vie. Nous avons bien sûr essayé de l'aider. Ses amis ont accouru, prêts à tout pour le sauver, mais tous ceux qui le touchaient mouraient. Parce que Roland leur volait leur vie et l'absorbait. Autour de lui, nous avons tous commencé à dépérir.
Il a tué mon mari, dit Victoria. Faute de pouvoir contrôler sa magie, il a fui surplomb du monde et s'est réfugié dans la vallée. Pas assez loin, hélas. Il espérait vivre à l'écart et ne plus nuire à personne, mais le sort a continué ses ravages. Comme une éponge, Roland absorbait toutes les formes de vie. Sa seule existence a tué les arbres et asséché les cours d'eau, et le phénomène s'est accentué. Des champs entiers détruits, puis des villes rasées.
Victoria se redressa et se passa une main sur les yeux.
Roland n'a jamais voulu ça.
Nietzsche pensa à la famille de Chardon et aux villageois des sources de Verdun. Malgré tous leurs efforts, ces gens avaient fini par tout perdre, y compris la vie.
Ses motivations ne comptent pas. Pensez à tous les dégâts qu'il a faits. Si on ne l'arrête pas, il détruira le monde.
Depuis des années, dit Simon, nos érudits détenteurs du don passent les grimoires au peigne fin. En vain. Aucun sort n'a affecté Roland.
Alors que la nuit tombait sur la vallée, Nathan sonda mornement la balafre.
Vous n'êtes pas à même de neutraliser un tel adversaire, dit-il. Une bande de sorciers débutants. Vous lisez beaucoup, mais quel sorcier vous a formé? Quand avez-vous fait vos preuves? Des pratiquants de la magie comme vous sont indignes de confiance.
Vous avez fait de votre mieux,
modéra Nietzsche.
Maintenant à nous de prendre le relais. Si cette bibliothèque est aussi grande que vous le dites, nous trouverons un contresort.
Nous ferons tout pour vous aider, dit Simon. Mais depuis cet accident, nous hésitons à prendre des risques seuls.
C'est très avisé, approuva Nathan. Mais il faut quand même agir.
C'est pour ça que nous sommes là,
soupira Nietzsche.
Pour sauver le monde une fois de plus. Je veux revoir renaître la vallée,
s'écria Chardon.
Les champs, les forêts, les cours d'eau.
Tu verras tout ça, promit Nietzsche.